Jean Bobéraud, vous êtes président d'honneur de l'École pratique des hautes études et vous avez fondé une chaire qui s'appelle Histoire et sociologie de la laïcité, unique chaire de l'enseignement supérieur français consacrée à la laïcité. Par quel chemin vous êtes arrivé à devenir le sociologue de la laïcité ?
Alors c'est une longue histoire parce qu'elle commence quand je suis lycéen où je me présente au concours général en histoire et le sujet du concours général cette année-là c'était le concordat de 1801-1802 entre Napoléon et le pape. Bon, j'ai retracé l'histoire de ce concordat jusqu'à son abolition finalement en 1905 et donc j'ai eu à traiter les relations de l'Église catholique et de l'État en France au 19e siècle, les conflits qu'il y a eu et l'aboutissement de ces conflits qui a été la loi de 1905 et disons l'émergence de la laïcité à la française. Après, j'ai fait de l'histoire du protestantisme, mais j'ai fait de l'histoire du protestantisme justement en prenant le protestantisme un peu comme analyseur de la situation de la laïcité française. Et puis, en 1989, il y a eu ce qu'on a appelé la première affaire de foulard. Et là, le gouvernement a décidé donc la création d'une chaire sur la laïcité parce qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas de répondant scientifique pour faire face à ce problème et voir les précédents qu'il pouvait y avoir.
Et vous êtes aussi donc protestant. Vous avez ce regard du protestant sur la laïcité. Est-ce que c'est important ?
Alors c'est important dans la mesure où mes ancêtres au 19e siècle aient fait des cultes dans les bois et dans les champs sous le Second Empire, sous Napoléon III et sous l'ordre moral. Je suis originaire du Limousin et les cultes avaient été interdits à l'époque, considérant comme cachant des options politiques. Et finalement, la liberté de culte est arrivée pour mes ancêtres dans les années 1880, au moment où la Troisième République a pris à la fois les premières lois laïque, la laïcisation de l'école publique, par exemple avec Jules Ferry, mais aussi une loi sur la liberté de réunion, donc une loi qui n'avait rien à voir au départ avec la religion elle-même, mais qui était une loi de liberté générale, et ils ont bénéficié de cette loi de liberté pour pouvoir faire leur culte tranquillement, sans demander rien à personne, mais sans inquiéter personne non plus. Donc, si vous voulez, mes ancêtres ont accédé à la liberté de culte grâce un peu aux lois laïques de la Troisième République.
Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dire qu'il y a un modèle de laïcité française ?
Oui, je parle de laïcité à la française pour bien insister sur le fait que la laïcité n'est pas une exception française. Évidemment, le terme est plus employé en France que dans beaucoup d'autres pays. Il y a même des pays où ce terme n'est pas utilisé. Mais si on essaye de voir quels sont un peu les ingrédients de la laïcité, le premier ingrédient, c'est la liberté de conscience pour tout le monde. Et c'est le fait donc que les gens aient le droit d'avoir des convictions personnelles, d'être responsables, disons, du choix de leurs convictions, que celles-ci soient religieuses ou non religieuses. Et le corollaire, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination au niveau de la citoyenneté pour des raisons de religion et de conviction. Ça, pour moi, c'est ça. Les finalités de la laïcité, les moyens de la laïcité, c'est une forme ou une autre de séparation des églises et de l'État. Il peut exister diverses formes de séparation. Et le fait que l'État soit un arbitre impartial entre les différentes convictions, donc une certaine neutralité de l'État. Mais encore là aussi, la neutralité, ça peut se vivre de plusieurs manières et elle n'est jamais absolue. Bon. Si on prend ces quatre ingrédients de la laïcité, on s'aperçoit que même dans des pays où le terme laïcité n'est pas couramment utilisé, on trouve ces ingrédients. Bon. Et donc, moi, je suis contre le fait de dire « il y a la France laïque et puis les autres pays ne seraient pas laïques ». Ça me semble ne pas du tout correspondre à la réalité des choses.
Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en 2015, la laïcité est mise à l'épreuve. Quels sont les défis, quelles sont les falsifications aussi et les confusions dans lesquelles nous pouvons nous tromper et être trompés ?
Oui, actuellement, il y a évidemment problèmes qui ont été manifestés par les attentats terroristes en janvier et en novembre 2015 en France, et puis d'autres attentats. On a vu que récemment en Belgique, il y a eu également des attentats. Et dans ces attentats, effectivement, on peut voir des atteintes à la laïcité, dans la mesure où il y a à la fois atteinte à la liberté de conscience, dans la mesure où c'est dirigé par des gens qui considèrent les autres comme impurs ou impies, etc., et atteinte d'une manière générale au choix de vie, atteinte à la liberté. Le problème, c'est de ne pas arriver à un jeu de frères ennemis. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des mesures à prendre pour assurer la sécurité, mais il ne faut pas se laisser entraîner, parce que ça, c'est le piège dans lequel les terroristes veulent nous mettre, à répondre, disons, du tac au tac, c'est-à-dire à restreindre les libertés pour assurer la sécurité. Il faut arriver à trouver un équilibre entre la recherche de la sécurité et le maintien des libertés. Alors pourquoi c'est très important ? Parce que pour être efficace, il faut arriver à isoler les terroristes, à isoler Daesh. Or, la propagande de Daesh, c'est de dire à un certain nombre de gens, et notamment aux musulmans en France, vous êtes discriminés, on vous considère mal, on fait des lois contre vous. Bon, il y a eu la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, il y a eu la loi de 2010 interdisant le voile intégral dans l'espace public, etc. Et donc, c'est de maximaliser les problèmes qui peuvent se poser pour essayer de diviser les Français et notamment de diviser les musulmans et les non-musulmans. Et c'est vraiment un piège terrible dans lequel il ne faut pas tomber. Actuellement, selon les statistiques, il y a environ 1 à 2 milliers de jeunes qui sont tentés par Daesh ou qui ont franchi le pas. C'est donc un phénomène marginal, puisqu'on compte à peu près 4 millions de musulmans en France. Mais si on tombait dans ce piège et dans ce jeu de miroirs et de frères ennemis, alors là, ça pourrait prendre des proportions beaucoup plus graves.
Est-ce qu'on peut dire que la laïcité est garant d'une certaine paix ?
La laïcité est garante d'une certaine paix à condition de ne pas transformer les moyens en finalité. Et ça, c'est justement, vous avez parlé de laïcité falsifiée, je crois que c'est le piège d'une falsification aujourd'hui. Pour certains, la laïcité devient synonyme de neutralité religieuse et la neutralité religieuse deviendrait une fin en soi, et notamment dans l'espace public, il faudrait une neutralité religieuse. Non, la neutralité religieuse a toujours été conçue par les pères fondateurs de la laïcité comme un moyen que se donnait l'État pour assurer la liberté de conscience de tout le monde. La meilleure preuve, c'est que l'article 2 de la loi de 1905, celui qui abolit finalement le système du concordat et des cultes reconnus, et qui dit que la France ne financera plus le clergé, donc c'est l'article de rupture du concordat, il se termine en disant « sauf pour les aumôniers, dans les prisons, dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles avec internat, etc. » pour pouvoir assurer la liberté des cultes. Autrement dit, la finalité de la liberté des cultes et qui est une partie intégrante de la liberté de conscience, restreint la neutralité de l'État quand cette neutralité de l'État irait contre la liberté de conscience, irait contre le libre exercice des cultes. La neutralité est un moyen et ce n'est jamais une fin en soi. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des gens qui transforment cette neutralité religieuse en fin en soi, parce qu'on est dans une situation un peu difficile où la projection vers l'avenir est plus délicate, etc. Et donc, ils absolutisent la neutralité religieuse au lieu de la considérer comme un instrument au service de la liberté de conscience.
Vous êtes le sociologue de la laïcité et parmi les succès de vos nombreux ouvrages, il y a un succès qui est l'histoire du christianisme. Donc un spécialiste de la laïcité qui est auteur aussi d'une histoire du christianisme. Comment vous expliquez ça ?
Parler de et s'intéresser à la laïcité, c'est aussi parler et s'intéresser à la religion. Et l'histoire du christianisme, c'est non seulement l'histoire des doctrines chrétiennes, mais c'est aussi l'histoire des rapports du christianisme et de la société globale, du rapport du christianisme et de l'État. Et ces rapports, évidemment, ont varié au cours des siècles. Je crois qu'il est très intéressant d'essayer de faire comprendre aux gens comment, justement, le christianisme naissant, qui au départ était tout à fait indépendant de l'État, et même avec Néron et d'autres, dans un premier temps, a été persécuté. Ensuite, après l'écroulement de l'Empire romain, est devenu un peu englobant la nouvelle société et qui s'est forgée peu à peu, qui a donné le Moyen-Âge, avec là un lien très fort entre l'État et l'Église, mais rapidement aussi une rivalité. Et puis, peu à peu, la modernité a lutté pour arriver à cette séparation sous ses diverses formes. Mais Ça a pris beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup d'efforts parce que finalement, pendant un moment, le christianisme a assuré le lien de la société. Et donc, se rappeler cette histoire, c'est aussi aujourd'hui arriver à pouvoir délier le religieux et le politique, non seulement au niveau du christianisme, mais au niveau d'autres religions, et à bien arriver à avoir un regard qui n'englobe pas une doctrine religieuse et une doctrine politique. Même si d'autres le font, il faut soi-même être dans une démarche où on arrive à séparer les choses et à donner aux gens le droit de vivre leur vie religieuse, qu'elle apparaisse modérée ou rigoriste, ça c'est leur choix, et il faut respecter ce choix, mais évidemment refuser une instrumentalisation politique de la religion ou une domination politique de la religion qui là ferait qu'une religion essaierait de s'imposer à des gens qui n'y croient pas. Et je pense que c'est l'intérêt évidemment de la religion elle-même de ne pas faire cette imposition, dans la mesure où une religion doit être vécue de manière authentique. Et pour être vécue de manière authentique, il faut qu'elle soit vécue de façon libre.
Jean Bobéro, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
On est dans une époque difficile, puisqu'effectivement, on est dans une époque où il y a eu des attentats en 2015, où on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, moi, je comprends qu'il y ait des peurs, mais je crois que la meilleure réponse et la réponse la plus efficace à cette situation, c'est quand même une réponse où on garde son sang-froid. Et on essaye d'assumer la situation avec le plus de sang-froid possible. Sinon, on visera à côté. On risquera d'atteindre des gens qui ne sont pour rien dans les attentats qui ont été commis, qui, au contraire, peuvent eux-mêmes être victimes de ces attentats. Et se diviser les uns les autres dans cette situation serait la plus mauvaise réponse donnée aux terroristes. La meilleure réponse donnée à ces terroristes, c'est au contraire d'être tous unis. Tous ceux qui refusent l'extrémisme violent, quelles que soient leurs convictions, quel que soit leur mode de croyance et leur mode de vie, de dire qu'ils sont ensemble pour résister à cet extrémisme violent.
Merci Jean Bobéro.